Content de vous retrouver ce matin. C'était pas prévu que je sois là ce matin. On devait avoir un échange avec Loudun. Je devais être à Loudun et c'est Audrey qui devait venir prêcher. Mais Audrey, notre sœur, a eu une fracture à la cheville, donc voilà, elle peut pas se déplacer. Donc finalement, chacun reste chez soi. Ce sera pour une prochaine fois. Ça tombe très bien aussi puisque voilà, comme vous le savez, nous avons cet après-midi notre assemblée générale. Et ce matin, du coup, c'est un message que j'avais prévu de prêcher, mais du coup, à une autre fois. Mais ça tombe très très bien, puisqu'on va conclure notre série sur les influences du monde, dans le cadre de la sanctification. Vous vous rappelez, du coup, ça fait quelques semaines maintenant que nous avons entamé cette série sur l'influence du monde comme obstacle à notre sanctification. Et ce matin, je voudrais parler d'une influence qui conclut bien aussi notre série et puis qui va aussi quelque part dans notre vision d'église à Saumur. Cette influence, c'est l'individualisme. L'individualisme qui est omniprésente dans ce monde et qui pour nous est un vrai défi en tant qu'église, ici à Saumur, défi ici de l'unité. L'unité ici qui est à l'opposé de l'individualisme. Et je vous propose du coup, j'ai intitulé le message de ce matin, une église à mon image ou à celle de Christ. Je vous propose de lire du coup et de prendre un texte. Je vais le mettre, mais je vous invite à prendre, comme ça vous pourrez lire tout le texte, parce que je ne vais pas tout lire, je vais couper d'ailleurs certains versets. Philippiens, l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 1 à 11. Voilà, Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou pour un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Verset 8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Amen. Mes frères et sœurs, à Saumur, ici dans notre église, nous avons un privilège immense, c'est d'être une famille spirituelle diversifiée. Vous allez me dire, c'est le cas dans toutes les églises évangéliques en France, c'est faux. C'est faux, puisque en fait, dans beaucoup de villes, et là où j'étais avant, c'était pareil, il y a plusieurs églises évangéliques dans la même ville, en fonction du coup des sensibilités de chacun. Alors c'est le fruit des fois, à l'origine souvent de divisions, mais surtout de points de vue différents, et où du coup on a considéré, nous en tant qu'évangéliques, pour ma part je considère à tort, au lieu de chercher l'unité, que c'est plus facile de vivre avec des chrétiens qui nous ressemblent. Et voilà, c'est ainsi, c'est comme ça. Et du coup, il y a, en général, dans ces églises, alors il y a toujours des tensions, hein, mais beaucoup moins dans une église où finalement toutes ces sensibilités sont réunies. À Saumur, la particularité que nous avons, c'est que nous avons, voilà, nous sommes la seule église évangélique, et du coup, forcément, que parmi nous, il y a plusieurs sensibilités, plusieurs, et au-delà des sensibilités, plusieurs caractères différents, plusieurs horizons différents. Alors ça, dans les autres églises, c'est aussi le cas, mais encore plus de richesse et de diversité en nous. Et le monde dans lequel nous vivons nous influence. Et sans qu'on s'en rende compte, il nous murmure quelque part que pour être bien, tout doit me ressembler. Le style de culte, la place de chacun, la manière de prier, et le piège, ici, et dont Paul parle, c'est de transformer l'église en un miroir de nos propres sensibilités, plutôt qu'à un reflet de la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est la vision de notre église à Saumur, vivre l'unité dans la diversité. Il ne s'agit pas de devenir des clones, mais vivre cette unité ensemble, dans nos différences. En alpinisme, alors voilà, j'ai été pour la première fois à la montagne, là, en février. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va à la montagne en hiver. Je considère qu'aller en vacances pour avoir froid, c'est pas très... surtout quand ça coûte cher. Mais voilà, j'ai un ami alpiniste qui me disait, qu'en montagne, on ne survit pas parce qu'on est d'accord sur le paysage. Quand il grimpe, et lui fait beaucoup d'alpinistes, il grimpe les montagnes, on ne survit pas parce que le paysage est beau. Et parce qu'on est d'accord sur la beauté du paysage. On survit et on vit parce qu'on est attaché à la vie, parce qu'on est attaché à la même corde. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, qui lâche la corde, il tombe. À Saumur, nous sommes sur une paroi escarpée, nous aussi. Nous sommes ici, comme je l'ai rappelé, la seule église évangélique. Et le monde nous pousse à l'individualisme. À regarder qu'à soi, mes vérités, mes goûts, mes droits. Mais si chacun tire sur sa corde, pour aller vers son propre sommet théologique ou liturgique, ou peu importe, c'est la chute collective. Nous ne sommes plus une église. Nous ne ferons plus église. Nous ne ferons plus corps. Et c'est tout le contraire que Paul et le Christ nous appellent à vivre, faire un. Dans cette diversité qu'est le corps du Christ. Paul écrit ici à une église de Philippe. C'est une église qu'il aime, mais qui est menacée par des tensions internes comme l'église de Corinthiens. Dans l'église de Corinthiens, chacun voulait être comme son voisin. Et Paul va rappeler cette image. Si le corps n'était qu'une seule main, si tout le monde était une main, ce ne serait pas un corps. Et forcément que la main, elle est différente de la tête, elle est différente du pied, elle est différente de l'œil. Ils ne se comprennent pas. Mais ce qui les tient ensemble, c'est l'unité. C'est qu'ils ont conscience qu'ils font partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et que Dieu les appelle à naviguer ensemble. Les chrétiens de Philippe, ce sont des chrétiens sincères. Mais ils commencent à être centrés sur eux-mêmes. Ce n'est pas encore une église comme l'église de Corinthe, vous lirez les épîtres aux Corinthiens, où c'est la catastrophe, et où c'est la même chose, c'est l'individualisme qui a poussé les Corinthiens, quelque part, à ne pas considérer l'église, mais leur propre personne. Mais les mêmes racines sont là, dans l'église de Philippe. On a des chrétiens sincères. Ils sont tous sincères, mais avec leur sensibilité, et ils oublient que le risque ici, c'est de se centrer sur soi-même. Et je vous propose de regarder comment Paul ici nous appelle à réagir, comment il va appeler les Philippiens à réagir. Et mon premier point, c'est l'appel à l'alignement. C'est les versets 1 et 2. « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour. » Une même pensée est tendée au même but. Paul commence par parler de sa relation à Christ, qu'il y a un réconfort dans la relation à Christ, un encouragement, et il enchaîne. Puisque vous avez goûté à Christ, voici la suite logique, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Paul ne demande pas aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, de devenir des clones. Il ne dit pas « soyez pareils », mais il part d'un alignement. Orienter sa volonté dans la même direction. Mes frères et sœurs, nous avons tous, et moi le premier, hein, des convictions fortes sur la manière de vivre le culte, sur la manière de vivre l'Église, de prier, de voir l'Église, sur les liturgies, peu importe le sujet, la liste est tellement large. Et ces convictions, qui sont propres à chacun de nous, peuvent être importantes de manière personnelle parce qu'elles font partie peut-être quelque part de notre cheminement, de ce qui nous a amenés vers Dieu. Mais ce n'est pas parce que ces convictions sont fortes pour nous-mêmes qu'elles sont fortes pour Dieu. Et le problème ici, ce n'est pas avoir des avis différents, les chrétiens de Philippe ont des avis différents, c'est ce que nous faisons de ces différences. Alors attention, Paul ne dit pas que la vérité n'a pas d'importance, et d'ailleurs dans la théologie chrétienne, on distingue deux points. Ce qu'on appelle les doctrines fondamentales et les doctrines secondaires. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence? Doctrine fondamentale, c'est ce qui touche au salut, à la foi. Des doctrines dont on ne discute pas, puisque la Bible, du coup, est claire, et plus qu'être claire, elle, si on change cela, on change même la foi chrétienne. Je donne des exemples. Il y a ce qu'est la personne de Jésus et ce qu'est la personne de Dieu. Il y a le salut par la grâce et par la foi seule. Il y a l'autorité de la Bible. Nous, en tant que protestants évangéliques, nous croyons que la Bible est la seule autorité. Et la liste peut être longue. Mais c'est des points, du coup, qui touchent au salut même. Et puis, il y a les points secondaires. Et dans les points secondaires, il y a deux catégories. Les points qui, finalement, où la Bible n'est pas si claire que cela, et il y en a. Il y a des sujets où Dieu laisse quelque part un flou, mais c'est des points secondaires. Il ne s'agit pas sur ces points secondaires d'en faire des points fondamentaux. Et puis, il y a dans ces points secondaires des points où la Bible est très claire, mais ça reste quand même des points secondaires. J'en ai un exemple. Un exemple sur les points secondaires, il y a la manière ici de vivre le culte. La manière de vivre le culte, la Bible présente différentes manières de vivre le culte, mais il n'y en a pas qu'une. Un point secondaire, c'est comment Dieu a créé le monde et comment il reviendra. Il y a différentes interprétations, c'est des points secondaires. Ce n'est pas ça qui va changer notre salut, notre rapport à Dieu. Il y a un flou. Et puis, il y a des points secondaires où la Bible est très claire et qui sont, et pour nous, en tout cas, l'église de Saumur important. Je parle par exemple des dons spirituels. Les dons spirituels ne touchent pas au salut à proprement parler. Il y a des églises d'ailleurs qui considèrent que pour eux, il n'y a pas besoin de vivre cela et ça ne change pas leur salut en Dieu, même si, voilà, du coup, il va leur manquer quelque chose. Nous, pour nous, on considère que du coup, et la Bible de toute façon est très claire sur le sujet, mais ça reste un point secondaire. Mais un point, du coup, Dieu nous appelle à vivre aussi quelque chose. Et du coup, dans tous ces différents points, il s'agit pour nous chrétiens de ne pas mettre tout au même degré. Concrètement, il y a aussi des sujets, quelque part, où des chrétiens sincères peuvent ne pas être d'accord. Le style de culte, la manière de vivre la louange, la place des émotions dans la foi. Bref. Et la liste, elle est très longue. Sur ces sujets-là, notre appel n'est pas de convaincre à tout prix, ni d'imposer notre sensibilité à mon frère ou à ma sœur chrétienne, mais de marcher dans l'humilité et l'amour, en gardant l'unité que Christ nous a donnée. Paul ne dit pas « Mettez-vous d'accord sur chaque détail doctrinal secondaire ». Il dit « Ayez le même amour ». Notre objectif commun doit être plus grand que nos opinions personnelles. Dans le début de l'histoire de l'Église, on va le voir dans les actes, les chrétiens vont commencer à se diviser sur des points secondaires. Est-ce que vous vous rappelez un point qui a failli diviser la jeune Église de l'époque? C'est la viande sacrifiée aux idoles. Est-ce que je dois manger une viande qui a été sacrifiée aux idoles ou pas? Et du coup, les apôtres vont eux-mêmes aussi se diviser, ils vont parler. Vous savez ce qui va régler la question? C'est la persécution. Quand la persécution romaine va s'accentuer, les chrétiens ne sont plus à discuter est-ce que la couleur des chaises, elle est rouge, elle est bleue, je suis d'accord ou pas. Ils se ressentent sur l'essentiel. Et moi, je ne prie pas qu'on ait une persécution ici quand même pour qu'on en arrive à là. Mais que quelque part, nous ayons conscience que nous avons un Dieu qui nous dépasse et qui nous commande ce matin de vivre cette unité. Unité dans la diversité. Je prends une image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un banc de poissons avec des milliers de poissons. En général, ils font un. Ils vont dans le même sens et c'est beau à voir dans l'océan. Pourtant, ils ne sont pas attachés les uns aux autres. Mais ils forment un banc de poissons. Des milliers de poissons, du coup, pris un par un, qui forment un et ils vont dans le même sens. Chaque poisson est libre, pourtant, et très différent. Pourtant, ils bougent comme un seul être. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous alignés sur un courant, un objectif de survie commun. C'est la survie pour eux qui leur oblige à vivre en banc. À Saumur, nous sommes des poissons de toutes sortes. Regardez-vous ce matin. Des horizons très variés. Et si l'un de nous décide de nager à contre-courant juste pour affirmer son style, ou parce qu'il se sent mieux, il brise la protection du groupe, il brise l'unité que le Christ nous commande. Et du coup, lui tout seul, il ne survivra pas, il ne grandira pas dans sa foi, mais l'Église aussi perd un membre, perd une richesse. Notre courant ici, ce n'est pas l'eau de l'océan comme les poissons, c'est l'Évangile. Ce n'est pas nos préférences, c'est l'Évangile. Ce matin, je nous pose la question, vers quoi est orientée ma volonté? Est-ce que c'est vers le plaisir de voir mes sensibilités et convictions confirmées ou vers la joie? De voir notre Église unie dans l'amour. Deuxième point, c'est le combat contre l'ego. Versets 3 et 4, Paul va dire ceci, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Paul identifie ici deux poisons que le monde a, et qui peuvent, et qui atteignent même, l'Église. Et c'est pour ça qu'il parle aux Philippiens. Le premier, c'est l'esprit de rivalité. Le monde nous apprend, j'appelle ça à faire du lobbying, pour nos idées, de faire des parties en fonction des idées. C'est le lobbying spirituel, j'appelle ça, vouloir que l'Église bascule dans mon camp, dans ma sensibilité, corresponde à ce que je suis, l'individualisme. Et du coup, nous ne venons pas à l'Église pour vivre quelque chose, mais pour vivre quelque chose qui me ressemble. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous rappeler quelque chose, on est tous d'accord en plus. L'Église, elle n'est pas là pour être ce que je suis, pour me ressembler. Elle est là pour ressembler au Christ. Et forcément, ça va me déranger. Forcément qu'il y a des éléments du culte, ou même de la vie de l'Église, je dépasse le culte, qui n'iront pas dans ma sensibilité. La plus importante ici des choses, c'est de faire un. D'aller au-dessus et de faire un, sinon nous ne ferons pas un. Face à ce poison de la rivalité, Paul y donne un remède. Il ne nous le dit pas comme le monde, bat-toi pour tes idées. Il dit, considère les autres comme plus importants que vous-même. Ce que tu es, je le vois, mais considère l'autre, ton frère, ta sœur chrétienne, comme plus important que toi. Et vrai, sœur, si chacun de nous, on vit cela, moi, il n'y a même pas besoin que je sois là. Il y aurait moins de problèmes dans les églises. Et du coup, tout tournerait bien. Mais qu'est-ce qui fait que ça coince? C'est le deuxième poison, le désir de se mettre en avant. Avec l'esprit de rivalité, il y a aussi ce désir de se mettre en avant, dont Paul va parler, un vain désir de vous mettre en avant. C'est l'orgueil. C'est l'ego. Le remède ici, il est radical. Paul encourage les Philippiens que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Je vous pose une question, mes frères et sœurs. Est-ce que je vois dans mon frère ou ma sœur ses qualités? Je vous laisse quelques moments de réflexion. Pensez à un frère ou une sœur, ici, hein, concrètement, avec qui vous avez du mal. Bon, si vous n'en avez pas, c'est tant mieux. Mais je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui peut nous déranger dans ce qu'il peut être ou faire. Est-ce que vous avez cette personne en tête? C'est bon? Dans cette personne-là, est-ce que vous arrivez à voir ses qualités? Si je dis ses défauts, c'est facile. Les défauts, ça, on le sait tous faire. Mais ses qualités, c'est ce que Paul dit, que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Paul ne dit pas aux Philippiens, il y a des chrétiens qui n'ont pas de qualités. Non, chaque chrétien que Dieu appelle a une qualité en elle. La question, c'est pour nous, le banc de poissons que nous sommes, de voir du coup l'autre comme Dieu le voit. Avoir le regard de Jésus. Est-ce que ce matin, nous sommes prêts, mes frères et sœurs, à considérer l'autre comme plus important que moi? À nous soumettre les uns aux autres? J'ai prêché il y a quelques semaines sur la foi comme produit. Mes frères et sœurs, Jésus a posé une question, je vous le rappelle, hein. Quelque part, le positionnement, il est important. Et pour ceux qui ne se positionnent pas, Jésus pose cette question et vous, vous ne voulez pas partir. L'Église, c'est un lieu où Dieu accueille, mais il s'agit que le cœur aussi fasse un avec Dieu. Sommes-nous capables d'aimer profondément un frère ou une sœur qui a une vision théologique différente sur un sujet secondaire de la nôtre, qui a une manière de vivre sa foi avec Dieu très différente de la nôtre? Où est-ce que je cherche à le changer pour qu'il devienne moi. Et en pensant, s'il est moi, il sera comme Jésus. Beaucoup d'orgueil, hein, là. Mais des fois, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Bon, j'espère que je ne suis pas tout seul. Moi, ça m'arrive, hein, mes frères et sœurs. Des fois, je me dis, purée, mais... Oh là là, il y en a certains, je ne comprends pas comment ils vivent. Et en fait, là, il y a du jugement, là. Qui nous sommes pour juger un chrétien qui vit sa foi de manière différente de nous? à nous de nous soumettre les uns aux autres. Mon dernier point, c'est la trajectoire du Christ. Paul conclut avec l'exemple qui est Jésus. Il va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. » Jésus avait tous les droits. Il est Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui aurait pu dire « C'est ma vision et ma volonté qui compte », c'est bien lui. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il va faire. Il a choisi le chemin inverse, le dépouillement. Ce qu'on appelle en théologie chrétienne la kénose. Jésus ne s'est pas accroché à ses privilèges divins, il a obéi jusqu'à la mort. Et c'est ici que notre individualisme doit mourir. Parce que notre maître n'a pas été individualiste, sinon nous ne serons pas là. Si Jésus, qui est la vérité incarnée, qui est Dieu, n'a pas utilisé sa position pour écraser les autres et pour les servir, nous ne pouvons pas utiliser nos petites vérités pour diviser son corps. Mes frères et sœurs, un rappel quand même important, nous faisons partie de l'Église, ceux qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ. Et l'Église que nous sommes, bien souvent, nous avons la tentation de la critiquer, de critiquer, et ici je souligne, l'épouse du Christ. Et que Dieu nous mette un frein dans notre pensée, dans notre bouche, pour pouvoir quelque part avoir un respect pour ce corps qu'est l'épouse du Christ, dont je fais partie en plus. Quand je veux que l'Église me ressemble, je fais l'inverse de Christ, qui lui s'est dépouillé pour nous servir. Et nous tombons ici tous dans ce piège, car notre ego aime avoir raison. Et la maturité chrétienne, c'est accepter de perdre une bataille d'opinion pour gagner une bataille d'amour. Dans ce texte, Paul va dire que Jésus a été souverainement élevé, que Dieu a élevé Jésus par son dépouillement. Et pour nous, l'église de Saumur, il y a quelque chose à vivre. L'unité à Saumur n'est pas un effort humain, c'est le résultat de Christ en nous. Et plus nous regardons à son humiliation, moins nos propres exigences nous paraissent vitales. Le verset 11 nous dit cela, « Le but final est la gloire de Dieu le Père, pas notre satisfaction personnelle. » Qu'est-ce qui est plus précieux à nos yeux? Que l'Église adopte ma position, mes sensibilités, que l'Église reflète l'humilité de Jésus. Dans les évangiles, on a l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un des plus grands prophètes et derniers prophètes, va dire ceci, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean-Baptiste a l'attitude de celui qui aime Dieu. Mourir à soi-même. Ça fait plusieurs fois qu'on prêche, mourir à soi-même. Permet de considérer l'autre comme supérieur à soi-même, permet de voir les qualités dans le frère ou la sœur. Dieu a élevé Jésus parce qu'il s'est abaissé, et l'autorité dans l'Église ne vient pas de ceux qui imposent leur vue, mais de ceux qui servent le plus humblement. Et mes frères et sœurs, parce que nous sommes ici la seule église évangélique dans notre ville de Saumur, notre diversité et notre témoignage ici est encore plus important. Si nous arrivons à être unis malgré nos sensibilités différentes, alors les habitants de Saumur diront « il se passe quelque chose de surnaturel dans ce local ». Car ils s'aiment malgré leurs différences. Comment c'est possible que autant de femmes et d'hommes arrivent pas juste à se rencontrer, à s'aimer, à être un malgré autant de différences. Je vous ai raconté ce témoignage, je le répète. Quand j'étais plus jeune, on avait fait c'était une semaine d'évangélisation avec Saïd Oujibou. Je ne sais pas si vous connaissez Saïd Oujibou, un évangéliste du coup. Et c'était super. Saïd, c'est son domaine, l'évangélisation, notamment auprès des quartiers populaires et des musulmans. Mais là, on avait fait dans toute la ville. Et du coup, on avait échangé avec, je me rappelle, sur les bords de la Loire, à Orléans, on avait échangé du coup avec une personne qui était vraiment en recherche de quelque chose. Et à la fin de l'échange, on lui donnait un évangile et on lui a dit « Voilà, Dieu t'aime, et si tu veux venir, eh ben voilà notre adresse. » Cette personne nous a dit « Il y a une semaine de cela, j'ai rencontré un autre chrétien qui fait partie de l'église évangélique libre, qui s'est, voilà, à Orléans. Est-ce que vous connaissez cette personne ou est-ce que vous connaissez l'église? On était trois, on a dit non. Et il nous a répondu, vous me parlez depuis une demi-heure de l'amour de Dieu et vous êtes incapable de connaître le chrétien qui est comme vous, qui me parle de l'amour de Dieu comme vous. C'est ça l'amour pour vous? Il m'a sorti cette phrase. Oh, je pense qu'il avait beaucoup d'humour. Dans ce cas-là, même Hitler, il aurait pu dire, moi aussi j'aime les gens. Aimer par la bouche, c'est facile. Moi, ça m'avait interpellé. Alors, il y a eu beaucoup de satire dans ce qu'il pouvait dire, mais quelque part, il y avait un fond de vérité. Comment nous pouvons parler d'amour si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Dans l'histoire de l'Église, ce qui a touché les sociétés, c'est l'amour visible, pratique des chrétiens. Et ce qui a empêché cet amour et cette unité, c'est l'orgueil, comme la rappelle Paul, les prises de parti, nos différences qui, quelque part, prennent beaucoup de place et nous empêchent de vivre cette unité. Alors, pour conclure, je voudrais vous mettre, tu peux mettre l'image, Audrey? Voilà, c'est les vitraux, je ne sais pas si vous reconnaissez cette église. C'est l'église, c'est la chapelle du coup sur Notre-Dame. Donc, et du coup, elle a voilà des beaux vitraux. Et ces vitraux, du coup, sont composés de différents verres. Des verres de couleur bleue, de différentes couleurs. Et un vitrail dans une cathédrale ou dans une église, de l'extérieur, c'est sombre. On ne voit pas les couleurs. Mais une fois à l'intérieur, c'est magnifique. Et la beauté des vitraux ne vient pas du fait que chaque morceau de verre a une couleur différente. Plutôt que chaque morceau de verre a une couleur différente. Si tout était bleu, si tout était jaune, ce ne serait pas une œuvre d'art, ce serait juste une vitre colorée. Et ce qui fait la beauté d'un vitrail, c'est la variété des couleurs et des formes. Chaque verre a une forme différente, a une couleur différente, et ensemble fait la beauté du vitrail. Frères et sœurs, à Saumur, nous sommes ces morceaux de verre, très différents les uns des autres, et que Dieu façonne, et que Dieu place dans son église locale, avec nos caractères, que Dieu appelle à changer, à travailler, mourir à soi-même, mais il y a aussi ce qui ne changera pas, d'où nous venons, nos passés, nos sensibilités, notre manière de vivre la foi, etc. Et ça, c'est une richesse. C'est aussi un gros défi. Et le monde veut nous convaincre que nous sommes plus beaux tout seuls ou avec des gens qui nous ressemblent. Mais la Bible nous dit que nous sommes le corps de Christ, diversifié et varié. Frères et sœurs, ne laissons pas l'individualisme du monde briser notre symphonie ici à Saumur. Nous sommes tous en apprentissage et ne laissons pas nos débats ou nos positions, nos sensibilités devenir plus grands que celui qui nous a unis. Apprenons un peu à descendre, comme Jésus est descendu, pour que lui seul soit élevé parmi nous, et que notre Église ne soit pas le reflet de nos visages respectifs, mais le reflet du visage du Christ. C'est notre défi à Saumur, et je pense que ça le restera, puisque nous faisons partie ici de ce contexte ici local. Vous savez ce que, je suis arrivé il y a 5 ans, vous savez ce que, voilà, Marc, en général, quand il y a une transition, on présente rapidement à l'église, et Marc, il m'avait dit une chose. Il m'a dit, tu verras David, ici, c'est une église différente d'une autre église. Là où t'étais, c'était très bien Saint-Germain-en-Laye, c'était très bien plutôt, mais là où t'étais, c'était que des chrétiens qui te ressemblaient. Pentecôtistes, ADD, classiques. Et ça marchait bien. Mais ici, tu verras qu'il y a la théorie et la pratique. Et tu verras qu'ici, il y a beaucoup de variétés. Et ça, c'est une richesse. Et moi, ça, je me suis dit, c'est ça l'Église. Bon, au bout de 5 ans, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de défis. Hein. Le amen, il est plus dur à dire. Hein. Mais c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Frère et sœur, je vous dis ça pour vous encourager. On a eu une pastorale là cette semaine, réseau. Et voilà, réseau, du coup, c'est Angers, Cholet, on va jusqu'à Poitiers maintenant, avec Thouars et Loudun. Et dans le cœur des prières des frères et sœurs de nos églises et des pasteurs, là-bas, Saumur a une place particulière. Parce qu'à Cholet, il y a d'autres églises évangéliques, parce qu'à Angers, il y a d'autres églises évangéliques. Thouars et Loudun sont rattachés à nous, mais du coup, nous, ici qui sommes seuls, Les pasteurs ont conscience du défi qui est là parmi nous. Dans la ville où j'étais, Saint-Germain-en-Laye, quand un chrétien venait, il n'était pas content, il allait dans l'église évangélique qui lui correspondait. Ici, il y a deux positions. Et je parle de la position de celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu, du coup, va venir ici. Si ça lui plaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va pas repartir parce qu'il aime Dieu. Il va venir avec la mentalité de changer l'église. Ce que j'ai prêché là. Au lieu de venir en se soumettant les uns aux autres. Regarder les autres plus importants que nous-mêmes. Apprendre à voir les qualités chez l'autre. Qui est différent? Moi, je suis pasteur. Je pourrais dire, on fait comme ça. On fait comme moi ma propre sensibilité. Et je vous le confesse, mes frères et sœurs, à Saumur, l'église de Saumur, et ben régulièrement, moi, il y a des choses qui m'interpellent, qui me dérangent dans la manière de vivre les choses. Mais quand je dis dérange, c'est pas négatif. Qui me dérange pour moi. Mais c'est des points secondaires. Et j'apprends quelque part à me soumettre. Parce que l'église, elle n'est pas estampillée David Guéblé, parce que quand je partirai, du coup, elle va estampiller qui d'autre? L'Église, elle dépasse, elle nous dépasse. Et je vous encourage du coup à vivre ce que Paul dit aux Philippiens, la soumission les uns aux autres, et regarder les qualités dans le frère ou la sœur qui m'entoure. Amen. Je propose ce matin de faire une prière commune. Prière commune, et qu'à travers cette prière, on puisse vraiment mettre notre cœur et se poser devant Dieu, voilà, que nous puissions courber nos têtes. Je vais dire cette prière, vous pouvez répéter après moi, pour que nous puissions faire un dans cette prière. Si vous êtes d'accord, et je vous le dis mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas d'accord avec ça ce matin, partez. Je vous le dis tout de suite, hein, partez. Ça évitera les problèmes, ça évitera les gens qui ici sont des bancs de poissons, mais finalement ils nagent à côté. Il vaut mieux partir, plutôt qu'avoir un esprit mal disposé. Dieu nous appelle ici à la soumission les uns aux autres et c'est important. Ce n'est pas une option pour pouvoir vivre quelque part ce que nous vivons là. Sinon, ça entraînera la division. Courbons nos têtes. Seigneur, merci mon Dieu parce que ta parole nous bouscule encore ce matin. Pardonne nos esprits de partisans. Pardonne-nous quand nous voulons prendre ta place et façonner ton Église à notre image. Brisons-nous ce besoin d'avoir le dernier mot et apprends-nous la beauté de la diversité soumise à ta croix. Pour que cette ville de Saumur voie en nous non pas des individus isolés, mais un seul corps, uni par ton esprit, Seigneur. Amen. Plusieurs voix s'élèvent. Élevons nos voix, mes frères et sœurs.